rien pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est fini, pour la
gangrène. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, bienvenue à tous et à toutes dans cette émission des Canu Info du jeudi 27 juillet 2023. Je suis Delphine et je suis accompagnée de Laurent, vas-tu bien?
Oui, bonsoir Delphine, je vais très bien. Donc c'est la dernière émission avant nos vacances estivales et nous reviendrons donc au mois de septembre.
Bon, moi je disais dernière semaine d'août.
Ou peut-être dernière semaine d'août, tout à fait.
Je suis optimiste.
Oui, non mais tu peux l'être. Et c'est un Canu Info spécial puisque nous n'allons pas parler d'informations directement en tout cas, puisque nous allons faire, comme nous faisons tous les ans, un sujet autour des rencontres de la photographie de Arles, donc à quelques kilomètres en dessous de Lyon, où il y a toujours plein d'expos, dont souvent quand même des liens avec l'actualité, on va en parler, avec des sujets en tout cas qui nous touchent dans le Canu Info du jeudi. Donc voilà, ça va être le programme de cette émission.
Oui, alors les rencontres de la photo, ça a commencé le 3 juillet, vous savez, au début, vous savez peut-être pas, c'est pour ça que je vous le dis d'ailleurs, vous avez une semaine spécifique, et puis après s'ouvre la grande période ouverte à tous et à toutes, et ça va durer jusqu'au 24 septembre prochain. Donc il y a plusieurs expositions dans plusieurs lieux qui s'étalent sur la ville de Arles, ça va même un peu au-delà avec des expositions partenaires. Et donc, comme tous les ans, on fait une sélection. Alors parfois, on vous parle de tout. Parfois, on fait des sélections. Et comme l'année dernière, on l'avait lié à de l'actualité. Cette année, on n'a rien décidé de tout ça. On a sélectionné quelques expositions que nous avons beaucoup aimées, soit par leur sujet, soit par leur qualité photographique et de proposition aussi d'exposition. Voilà, donc on va un petit peu vous parler de ça, en sachant que donc pour vous mettre l'eau à la bouche, nous allons vous parler de cette exposition à l'espace Van Gogh Casa Susana. Nous irons ensuite dans les deux expositions Luma avec Alam Chibli et Diane Arbus. Nous irons du côté du musée Réattu avec en particulier cette exposition de Jacques Léonard, et nous parlerons de cette magnifique exposition de Grégory Crutzen. Voilà. Donc on va commencer, nous avons décidé, tout de suite par Casa Susana.
Oui, c'est un truc un peu particulier qui a lieu assez régulièrement dans cet espace Van Gogh. C'est de ressortir des images d'archives, en fait, faire un travail d'historien. On s'éloigne du monde de la photographie d'art, qui est quand même le cœur normalement de ce festival, pour aller sur des traces qu'ont laissé la photographie dans des domaines un peu particuliers. Et là, on va parler d'une revue en fait, puisque Casa Susana, c'est à la fois une maison, mais c'est à la fois une revue.
Alors c'est pour redire en fait, cette exposition, elle est pas donc basée sur des photos récentes. Comme tu l'as dit, l'espace Van Gogh a l'habitude de nous faire aussi des rétrospectives autour d'une thématique ou d'un photographe, d'une photographe. Et là, donc, on va s'intéresser à ce réseau transgenre des États-Unis d'Amérique qui s'est tourné autour d'une revue et d'un lieu. Alors, les deux étant à la fois liés, mais aussi séparés dans leur création et par leur fondatrice à chaque fois. Alors, peut-être que ça vous parle, Cassa Susanna, parce qu'il n'y a pas très longtemps, Arte a proposé un documentaire sur cette Casa Susanna que je vous invite à voir puisqu'on peut toujours le voir hein, sur arte.tv. Donc ça, là c'est sur le film, ça nous permet de à travers le propos les propos et les histoires de quelques personnes de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer à l'époque. Alors Casa Susanna c'est quoi? C'est d'abord un lieu ouvert par Maria et Susanna qui va accueillir d'abord sur un premier espace qui est le Chevalier d'Éon un club pour travestis, c'est le terme qui est employé à l'époque et qui même serait peut-être encore employé aujourd'hui dans cette cas de figure particulier, qui va être à la fois ouvert à tous et à toutes. Hein, on y voit même le maire du coin venir s'encanailler. Et puis, ça va devenir aussi un lieu d'accueil pour celle qui, née homme, ont décidé, dans une Amérique extrêmement rigoriste, religieuse et conservatrice, de devenir des femmes, soit en se travestissant, en faisant vivre leur part féminine, soit en décidant de changer d'identité et donc en devenant des femmes.
Oui, alors il y a en fait à l'époque, il y a quand même assez peu de choses sur le changement d'identité. C'est avant tout des hommes qui avaient envie d'exprimer leur part de féminité, qui restaient hétéros majoritairement. On avait affaire à des hommes hétéros, mais qui avaient envie de se travestir en femme. C'est le cœur du un peu de cette revue et de ce lieu. Donc on parle des années 50 et des années 60, hein. C'est pas aller plus loin que ça. Donc effectivement, on est très très loin de ce qu'on peut avoir comme débat actuel sur la question du genre. Là, on est dans un monde binaire. Il existe les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Point.
Donc, alors pour dire en fait, hein, quand même, il y a un certain nombre de ces femmes qui ont fait leur transition, qui se sont fait opérer aussi à des époques où la chirurgie était plus difficile qu'aujourd'hui. Il y avait moins de lieux, elle était plus brutale aussi, et elle coûtait très cher. Il faut savoir que par exemple, il y a une femme transgenre qui s'appelle Gloria, qui s'appelait Gloria, qui a utilisé sa fortune pour accompagner ces femmes en transition, qui a payé hein, les opérations, qui les a aidées à s'installer, à se loger, à se remettre hein, de ces opérations. Donc c'est un réseau. Et donc tu parlais de ce magazine créé par Virginia Prince, Transvestia, qui marque aussi cette exposition puisqu'on retrouve aussi une partie de ce magazine. Donc dans ce magazine, il y avait toujours une miss en couverture, donc une femme qui se dévoilait en couverture de ce magazine, mais qui était clandestin. Il était envoyé par la poste à uniquement des abonnés, et donc c'était quelque chose qui restait malgré tout secret, puisqu'on était dans une situation d'illégalité quand un homme se travestissait femme, et oui. S'habillait en femme. Alors, d'autant plus quand un homme souhaitait, comme c'est le cas beaucoup hein, dans Casa, quand même, Susanna, devenir une femme et donc cesser d'être un homme. Alors, une seule femme a son nom masculin cité dans cette exposition. Il s'agit de Susanna. Pourquoi il est cité? Parce que Susanna et Maria, Susanna était Tito, mais Susanna a pendant très longtemps dû conserver ce personnage masculin. Je dis bien personnage hein, masculin, parce qu'il fallait aller travailler et Tito a ramené de l'argent pendant longtemps jusqu'à ce que Susanna arrive à s'émanciper et à se libérer dans le monde du travail et donc de pouvoir se libérer définitivement de Tito, mais ça a pris du temps. Donc cette exposition nous raconte aussi qu'est-ce qui était ces rendez-vous de ces femmes dans une campagne quand même américaine, dans cette maison d'abord du Chevalier d'Éon, puis dans Casa Susanna. Casa Susanna deviendra un bed and breakfast, un lieu d'accueil où se rendent donc ces femmes qui soit se sont habillées en femmes pour l'occasion, soit tentent de vivre leur vie dans cette transition au cours de l'année. Mais encore une fois, on est dans les années 50 et 60, c'est très compliqué. Ce qui est très intéressant dans ces photos, c'est que on y retrouve des photos de femmes bourgeoises.
Oui,
en
alors, c'est très stéréotypé. Donc, ces hommes qui se travestissent, ils se travestissent en respectant la norme. La norme des années 50. Donc, des femmes, ils s'habillent en femmes au foyer, en femmes travailleuses. Il y a une sorte d'acceptation du stéréotype porté par les femmes. Et ces hommes travestis, finalement, reproduisent ce stéréotype. C'était un peu, a priori, de ce que j'ai compris, une des critiques qui a pu émerger à un moment sur cette revue. C'est qu'effectivement, il y avait cette idée de reproduire un peu ce qui se passait dans la vie de tous les jours, sauf que cette fois c'était des hommes qui se travestissaient.
Oui, effectivement, dans cette revue, Susanna avait une rubrique et elle était assez réac, hein, assez conservatrice dans sa manière de voir le féminisme. Arrivée, elle a critiqué par exemple le côté androgyne des femmes des années 70. La liberté aussi. Finalement, il y avait aussi cette reconnaissance du couple hétéronormé dans les discours de Susanna pendant un moment. Elle a été largement critiquée là-dessus, mais c'est aussi alors on va d'abord dire on va amener cette critique tout de suite et puis après on va passer quand même à ce que ce lieu a pu aussi amener. C'est vrai qu'il y a même eu des dissensions puisque il y avait ces hommes qui se travestissaient pour libérer leur côté féminin,
mais qui s'assumaient hétéro, qui étaient hétéro et qui
ça à la rigueur on s'en fiche de ça, finalement, de leur hétérosexualité ou pas. Par contre, il y avait des femmes qui voulaient faire cette transition, aller au bout.
Enfin, des hommes qui voulaient faire cette transition.
Oui, mais ces femmes qui ont voulu faire cette transition de devenir des femmes, et ça aussi c'était un mouvement. Mais c'est vrai que le Casa Susanna, que ça soit sur sa première maison ou la deuxième maison, a accueilli des hommes blancs, il faut le dire aussi, pas d'hommes et de femmes donc noirs dans ce réseau de Casa Susanna. Et puis plutôt des gens confortablement
classe
installés,
moyenne, ouais.
De la classe moyenne, voire de la classe élevée, comme avec le cas de Gloria. Il y avait toutes les professions, hein, et donc c'est aussi pour ça qu'il y avait ce côté aussi un peu caché. C'est qu'on se trouvait que parfois des journalistes et des avocats, par exemple, qui voulaient conserver l'anonymat. Mais bien sûr, parce qu'il y avait aussi cette illégalité qui amenait bien des ennuis. Il faut se souvenir qu'à New York, il y avait le groupe Downtown qui existait et qui a subi une répression terrible dans les clubs avec la police qui arrivait et qui attrapait donc les femmes dans les clubs de travestis. Donc c'était une autre époque. Il faut aussi essayer d'imaginer ce que la répression et la tension sociale, hein, parce qu'il y avait aussi non seulement l'illégalité, mais d'abord il y avait un principe, c'est on était méprisé et c'était moralement inacceptable quand même pour une partie de la population des États-Unis d'Amérique. Donc il fallait trouver sa place, et ce réseau a permis quand même à ces personnes en transition de trouver une place, de trouver une liberté. Quand on regarde ces photos, on a donc un travail avec le tailleur ou les tenues de gala, quelque chose quand même de très chouette et de très beau de travailler. Pour la petite histoire, Maria a rencontré Susanna. Elle a d'abord, Maria, rencontré Tito. Elle tenait, Maria, un magasin de perruques, et Tito est venu acheter une perruque. Et elle l'a outé, comme on pourrait dire, en déclarant qu'elle savait bien que la perruque était pour lui, donc pour elle. Et c'est comme ça, en fait, que ce couple s'est créé et a créé ce réseau à travers donc cette revue, en se donnant des rendez-vous. Mais c'était pas facile au début, puisque la revue, s'il y avait des pages tirées de magazines scientifiques, plus des rubriques tenues par les unes et les autres, il y avait aussi toutes des pages qui concernaient en fait les rencontres, ce qui a permis à des groupes au niveau des États-Unis d'Amérique de se constitué sur un certain nombre de territoires. Donc ça a été une revue extrêmement importante et qui a permis l'échange, mais Casa Susanna sur les deux maisons a permis de libérer la parole. Et donc on avait ces femmes qui parfois avaient une voix rauque, qui étaient pas dites féminines dans leur représentation, mais qui étaient acceptées comme telles, et c'était pas ça l'important. L'important, c'était de pouvoir être libre, de s'habiller comme elle l'entendait, de se coiffer comme elle l'entendait, de se maquiller comme elle l'entendait, et de pouvoir, pendant un week-end ou quelques jours, vivre librement, sans répression et sans jugement de valeur. Et ça a permis aussi à une partie de ces femmes de pouvoir ensuite exposer ce qui leur arrivait à leur famille, puisqu'il faut savoir que certaines femmes accompagnaient leur femme travestie lors de ces week-ends. Alors elles restaient après entre elles, mais il y avait aussi une petite acceptation dans un certain nombre de couples, et puis il y a aussi des couples pour qui ça a été beaucoup plus difficile, et donc toutes ces photos nous racontent tout ça, beaucoup de portraits.
Oui, des photos d'époque, des photos de la revue, des photos de, voilà, de ce qui a pu se passer. Beaucoup de quand même photos de ces premières pages, de ces unes.
Ouais, tout à fait. On a ces miss.
Ces miss, donc ces hommes travestis en miss, très ringues, très ringardes, hein, parce que on est dans le look des années 50, de la, souvent de la femme
c'est
au foyer, ou de la, presque de la pin-up, mais il n'y a pas le, le côté sexe,
physique,
en fait.
Ouais, sens, voilà. Voilà, sensoriel.
Mais il y a le côté sensuel. C'est assez surprenant. C'est une histoire qui est peu connue, et c'est, assez, c'est très intéressant de voir toute cette expo avec tout, tous ces témoignages visuels de ce qui a pu se passer.
Ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a cette revue qui sert de réseau. Hein, on n'avait pas les réseaux sociaux sur Internet comme aujourd'hui, hein, ou grâce à Internet. Ou... donc on a cette revue. Et puis, si aujourd'hui on a des photos, la photo est évidemment un problème, vous l'entendez bien, puisque ça laissait une trace, la photographie. Hein, mais est apparue une photo qui va permettre de garder des souvenirs, c'est le Polaroid, parce qu'il n'y a pas de négatif, et donc le Polaroid, on peut contrôler son image, on peut garder la photo de soi-même. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette prise de risque de rentrer chez soi avec ses habits, ses photos, et que dans le film que je vous recommande de voir, il y a justement une fille d'une de ces personnes qui se rendait à Casa Susana, qui se demande où est-ce que son père, quand il rentrait, mettait donc ses habits, tout en découvrant tout au fil de la vie en tant qu'adulte ce qui avait bien pu se passer, et donc l'histoire de cette famille. Donc voilà, je vous recommande aussi de voir le film, voilà, mais je vous recommande évidemment d'aller voir l'exposition, parce que, encore une fois, l'espace Van Gogh est un lieu assez grand pour accueillir de nombreuses photos et nous raconter une histoire particulière. Voilà, et donc ça vaut vraiment le coup.
Voilà, au départ, c'est deux antiquaires qui découvrent 340 photos dans un marché opus à New York, c'était en 2004, et c'est à partir de ça qu'est née cette expo, entre autres, et la redécouverte de l'histoire de Casa Susana. Alors on change de lieu, on va alors les liens, on va voir quelque chose qui n'est pas en direct fait par les rencontres d'Arles, mais qui est en lien avec les rencontres d'Arles, c'est la fondation Luma. Donc Luma, c'est une grosse fondation de riches qui a fait pas mal polémique à Arles, puisqu'elle s'est accaparée, cette fondation, des lieux qu'utilisaient beaucoup les rencontres d'Arles il y a quelques années. Il y a eu une construction d'une tour avec un architecte, quelque chose de très moderne. Voilà, et on sent que...
Ça s'appelle la verrue.
Voilà, bah, c'est la verrue. Et puis... petit à petit, les relations semblent s'être apaisées entre les rencontres d'Arles et Luma. Et aujourd'hui, donc, il y a des choses associées. On va en présenter deux. On va commencer par une résidence qui a eu lieu pendant un temps relativement long chez Luma, d'une Palestinienne qui s'appelle Alam Shibli, qui s'était fait remarquer par ses photos et qui va être hébergée et passer un petit moment à Arles. Et la Fondation Luma nous propose des extraits un peu de ses travaux, puisque on a des bouts d'exposition. Le côté frustrant, c'est que des fois il n'y a qu'une dizaine de photos et qu'on aimerait en voir plus. Mais ça donne une bonne idée de ce que peut faire cette photographe. Alors, par exemple, il y a la série Appartenir, qui est la dernière en date, Alam Shibli prend des photos de Arles et des gens de Arles, de ce qui se passe à Arles, des travailleurs et des travailleuses de Arles. On va faire du coq à l'âne, hein. Il y a une partie qui s'appelle Occupation, donc qui est plus vieille, qui date de 2016-2017. Donc là, on parle de Hébron, ville occupée, ville martyre, ville détruite, abîmée par l'occupation des colons israéliens, et notamment ce qui s'est passé suite à l'attentat dans la mosquée de la ville, hein, qui depuis n'est plus qu'une mosquée, elle est aussi un lieu religieux pour les juifs. Et donc là, il y a une partie, voilà, des photos que Alam Chibli a pu prendre et qui nous montre un petit peu cette horreur qu'est l'occupation israélienne à Hébron. Il y a aussi un travail toujours en lien avec la Palestine qui est pas très intéressant, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de photos sur les archives de Ramallah. Donc les moyens des photos d'archives qu'ils ont pu retrouver et prendre en photo sur Ramallah. Il y a un travail aussi intéressant, alors tout ça c'est une expo qui est relativement grande, et à chaque fois on montre 7 et 10 photos, une expo sur les enfants, alors ça c'était assez surprenant, dans les orphelinats polonais, donc ça date de 2008, ça s'appelle « La maison meurt de faim en ton absence », et on a un travail autour de ces enfants qui sont abandonnés par leurs parents, définitivement ou pas, hein, parce que des fois les parents reviennent les voir. Et on a ces photos qui mettent en avant le travail de ces communautés, puisque ce qui est intéressant a priori dans ce qui se fait dans ces orphelinats polonais, c'est qu'il y a une vie en communauté, une vie collective des enfants qui s'organise autour des repas, autour de plein de choses, et les photographies et l'expo témoignent un petit peu de tout ça. Pour continuer dans le coq à l'âne et dans l'autre bout de l'expo, il y a un truc un peu drôle qui est issu d'une série de photos de 97. On est après les accords d'Oslo, vous savez, les escroqueries qui nous a fait croire que la paix était possible, et où la course hippique traditionnelle de Jéricho a lieu, et on a une série de photos noir et blanc là pour une fois sur cette course qui représentait un peu un symbole, hein, d'un espoir de paix, mais qui n'a jamais eu lieu. On sait que les accords d'Oslo finalement n'auront servi à rien, si ce n'est à calmer l'ardeur de la résistance palestinienne. Donc voilà, pas mal de choses autour de cette photographe, donc Alam Chibli. Intéressant de l'avoir posé un regard sur Arles et sur les alentours, sur les gens de Arles, puisqu'elle est en résidence depuis un certain temps dans la région. Et puis revoir un peu son ancien travail, j'ai trouvé ça très intéressant.
Alors c'est une photographe qui s'intéresse au foyer qu'on occupe et qu'on n'occupe pas, comment à un moment justement celui peut être laissé vide, et c'est la thématique, hein, de cette exposition Occupation à Hébron, où elle nous montre ce qu'est une ville occupée dont on a chassé les habitants, et donc cette brutalité se transparaît dans ces photos couleurs qui pourtant sont plutôt sur des tons pastels, c'est-à-dire qu'on n'a pas une photo agressive par sa couleur, elle y met beaucoup de douceur. C'est la même chose sur ces photos dépendance qu'elle a tournées à Barcelone en 2007, où elle photographie ces aides de personnes âgées qui sont souvent des étrangères et qui accompagnent leur petit vieux. Et elle y met, donc elle utilise la couleur avec souvent la lumière intérieure, donc ce qui permet aussi d'adoucir aussi ce rapport entre ces personnages qu'elle va photographier et le rapport qu'elle peut avoir aussi elle nous montre un rapport entre deux êtres humains, finalement qui commande pas, est-ce qu'il y a un rapport de force ou est-ce qu'il n'y en a pas, et donc c'est aussi cette lumière qui amène une certaine lecture de cette exposition dépendance, enfin en tout cas moi je trouve, mais c'est vrai qu'elle nous raconte aussi une réalité, c'est que il y a des migrants installés à Barcelone qui font ces boulots que ne font pas les Espagnols, et qui sont mal payés, ont des difficultés, ne vivent pas bien, ont des conditions de travail très compliquées, voilà, donc c'est aussi une photographe qui est engagée dans ce qu'elle montre à travers ses photos, et c'est pas simplement parce que elle va nous montrer l'occupation qui se passe à Hébron, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a quitté la Palestine, elle a décidé aussi de montrer ces lieux ces foyers occupés ou vides et qui nous racontent aussi quelque chose de la, par la présence ou non de ces personnes qu'elle va photographier. Ça raconte à chaque fois une histoire, hein, quand même. C'est une photographe assez intéressante, d'autant plus que l'exposition, même si chaque série est assez courte, donne quand même une belle image de son travail. On peut, voilà, on a un côté quand même sur plusieurs décennies. Je trouve ça plutôt assez intéressant aussi de voir aussi le parcours qu'elle a pu avoir depuis les images palestiniennes qui racontent aussi son pays voilà des images comme Barcelone où elle va aussi s'installer, ou la Pologne, enfin voilà. Donc c'est une photographe assez intéressante à voir, donc aux Forges Luma Arles.
Et les Forges, c'est un des anciens ateliers de la SNCF.
Exactement.
Voilà, que Luma a réhabilité.
Et donc Luma a donc une belle collection, hein, puisque je vous rappelle que c'est, sa fondatrice est une collectionneuse, avec de l'argent bien évidemment.
Oui.
Et donc on a un fonds Diane Airbus qui est assez exceptionnel, une exposition qu'il faut parcourir comme un labyrinthe. Alors vous avez plusieurs choix a priori, hein, tenter d'avoir des lignes droites, tenter de... faire comme vous pouvez,
de zigzaguer.
On voit, voilà, cette exposition, on peut la parcourir un peu comme on veut, puisque vous pouvez saisir un petit fascicule à l'entrée qui vous donne des titres, et parfois il n'y a pas de titres sur ces photographies. En tout cas, ça vous donne aussi une période, parce que les titres ne sont pas forcément très intéressants, même si parfois on croit reconnaître quelqu'un, et on a bien raison, parce que c'est bien cette personne. C'est surtout qu'on a donc la période, l'année de prise de la photographie. Mais l'exposition n'est ni temporelle, ni thématique. Elle n'est pas du tout chronologique. Hein, donc,
non,
c'est,
bah,
c'est à parcourir cette rétrospective comme vous pouvez.
Ouais, c'est 450 images, c'est quand même beaucoup. C'est surtout les S70 quand même qui sont présentes. Alors moi, ce que je trouve bizarre, c'est le fait que tout soit mélangé. En fait, il y a des thèmes. Il y a 6 ou 7 thèmes. Il y a le thème du cirque qui apparaît plusieurs fois. Il y a les culturistes. Il y a les handicapés mentaux. Il y a pas mal de choses sur les handicapés mentaux. On n'a aucune information sur ce que c'est. On a que des photos. On a un camp de nudistes où on a pas mal de photos aussi. On a des travestis aussi qui sont en photo. Ces 6 ou 7 thèmes, ils sont éparpillés. Donc, un coup, on a une photo, voilà, d'un nudiste. Et puis après, à côté de quelqu'un du cirque. C'est assez bizarre le choix de la fondation Luma d'avoir tout mélangé et pas d'avoir groupé par thème.
Alors moi je trouve finalement pas si mal. Je sais pas si alors d'abord il faut vous dire une chose, c'est du portrait
majoritairement oui.
En pied ou un portrait de face, mais en tout cas c'est du portrait noir et blanc. Donc c'est aussi une exposition sur ce travail, hein, de Diane Airbus. Et je sais pas, en fait, finalement, je crois que c'est aussi intéressant de voir cette rétrospective et de montrer la masse de son travail et aussi de ses thématiques très variées. Effectivement, tu parles des nudistes, elle fait des très beaux portraits, voilà, elle va filmer ses personnes, ses couples, ses corps, avec une simplicité dans l'image que je trouve assez exceptionnelle pour cette photographe. À chaque fois, elle prend des êtres humains qui ont l'air heureux quand même aussi pour une partie d'entre eux, en particulier pour ces enfants atteints d'un handicap physique et mental, où il y a la joie à chaque fois, parce qu'elle nous amène aussi cette photographie de la joie. Donc c'est une très belle exposition, je trouve. Après, à vous de vous débrouiller avec ce que vous pouvez prendre. Est-ce qu'on est obligé de tout voir? Est-ce que si on manque 3 photos, c'est grave? Je suis pas sûre, parce que comme tu le dis, il y a beaucoup de photographies, donc je suis pas sûre que ce soit très grave de manquer un bloc de photos.
Oui.
Il faut se laisser porter, il faut prendre son temps, et puis faire gaffe de pas se prendre le miroir qui abrite le fond donc de cette exposition. Et quand on rentre, on a l'impression que c'est sans fin, mais en fait non, il y a un miroir, mais qui, c'est vrai, quand on rentre dans cette salle, donne une impression vertigineuse de photographie, mais qui est réelle en fait, parce que les photos sont exposées en hauteur, en bas, en haut, et donc du coup on a quand même une masse de photos impressionnante, et ce miroir va donner vraiment une sensation de se noyer dans la photographie. Et puis une fois qu'on s'y plonge, qu'on s'arrête devant les photos, qu'on se promène, on prend un certain plaisir quand même à redécouvrir son travail, hein. C'est quand même une grande artiste, hein, Diane Airbus, c'est une grande photographe, et donc c'est une très belle rétrospective que nous propose Luma pour ses rencontres de la photo de Arles.
Voilà, ça nous replonge dans une époque qu'on connaît pas, qu'on connaît mal, les États-Unis des années 50, 60 et au tout début des années 70. Elle est morte au tout début des années 70, Diane Arbus. Voilà, une immense photographe américaine avec une belle expo rétrospective.
Et puis qui a supporté effectivement des sujets qui étaient peu portés aussi par cette photographie américaine, comme le nudisme par exemple, le cirque. Alors le cirque, il a pu être porté par d'autres photographes, mais aussi effectivement dans les clubs de nuit. Donc voilà, c'est aussi...
Et puis les handicapés mentaux aussi.
Une photographe qui allait au contact des gens et qui en donnait souvent aussi le plus bel aperçu de l'être humain et non pas... On adore les photographies de certains photographes nord-américains qui montrent cette Amérique pauvre et dégradée, mais pour autant, c'est bien aussi d'avoir une photographe qui sait monter aussi une Amérique magnifique.
Ouais, parce que notamment les photos sur les handicapés mentaux, elles respirent la joie souvent, ces photos, alors que la situation pourrait faire ressentir l'inverse. Et voilà, non, c'est une très belle expo, donc 450 photos, noir et blanc bien évidemment, puisque elle est morte en 71, je crois, Diane Arbus, donc avant l'arrivée de la couleur, enfin ou au tout début de l'arrivée de la couleur.
Et puis on va partir au musée Réattu. Alors on va continuer juste avec une petite précision sur les portraits. C'est qu'on y découvre tout au long, quand on rentre dans ce musée Réattu, qu'on vous, on vous conseille, on est très bien accueillis, c'est un endroit vraiment passionnant, dans un très beau, une très belle architecture. On va découvrir, parce qu'il faut lézarder pour aller jusqu'à cette exposition Jacques Léonard, on va trouver des photographies du fond du musée Réattu, puisque il faut se souvenir que quand même là, on est face à des collectionneurs qui ont réuni un certain nombre de photographies au niveau international avec des grands noms, hein, dont celle dont nous venons de parler, hein, qui vont, comme Suzanne Mézelas aussi, que nous aimons beaucoup hein, dans cette émission. Et donc, on va découvrir tout au long du parcours ces photos qui sont parfois isolées, toutes seules, avec des portraits, et ça fait aussi une très belle introduction en matière photographique, si par exemple vous n'y connaissez pas grand chose en photographie noir et blanc de portraits des États-Unis d'Amérique par exemple aussi.
Oui, et puis il y a des photos ultra connues, hein, on retrouve, et des photographes ultra connus, parce que dans ce fond qui est la collection Florence et Damien Bachelot, il y a une 120 photos à peu près. Il y a du Robert Doisneau, du Brassailles, voilà, il y a encore du Diane Arbus d'ailleurs. Il y a des gens très très connus, et ça fait une sorte de voilà de résumé de cette photographie sociale assez typiquement française, hein, puis qui a ensuite qui s'est répandue dans le monde entier, mais qui est vraiment née à Paris avec Doisneau et avec d'autres. Et c'est intéressant de croiser ces photos, cette collection qui s'appelle tout simplement Portraits, et qui est au sein du musée Réattu, qui accueille le travail du fondateur, monsieur Réattu, et pas mal de choses de Picasso aussi, puisque je crois qu'ils étaient assez proches. Puis il y a plein d'autres choses dans ce musée, quelques contemporaines.
Enfin, voilà, c'est aussi un lieu où on peut prendre plaisir à voir d'autres œuvres, d'autres un peu moins, sur une certaine peinture. Mais enfin voilà, en tout cas, tout ça nous amène donc à nous rendre, à voir cette exposition Jacques Léonard, cette exposition qui s'appelle L'Esprit Nomade.
Alors Jacques Léonard, a priori, personne ne connaît.
C'est un grand monsieur.
Ouais, mais. Je crois qu'il n'a pas marqué la photographie comme d'autres. On est arrivé, il y a une grosse collection avec 150 photos à peu près. Pareil, hein, on est dans la photographie sociale et on découvre donc Jacques Léonard, donc essentiellement de la photo noir et blanc, avec beaucoup de choses assez diverses. Et puis surtout un truc très fort autour des gitans.
Alors vous savez qu'à Arles, il y a une histoire traditionnelle. Tous les ans, hein, nous avons droit à une petite ou une grande exposition qui nous parle des gitans et des gitanes, parce que Arles est une ville de tradition gitane.
Il y a un quartier.
Arles parle aussi hein, de son patrimoine dans le cadre de ses rencontres de la photographie. Et Jacques Léonard a photographié beaucoup à Barcelone les gitans et les gitanes. Et effectivement, ce qu'il faut dire, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé tard à la photographie, il a fait divers métiers, il a travaillé dans le cinéma, et puis ce qui était d'abord qu'un plaisir personnel, la photo devient d'un seul coup quelque chose de beaucoup plus important, mais d'abord ce n'est qu'un plaisir personnel, la photographie c'est un passe-temps.
Et ce qui est impressionnant, c'est que comme il va se marier avec une gitane du quartier de Montjuïc, de Arles, il va pouvoir prendre des photos de l'intérieur sans être un étranger
qui alors, vient... Alors, il n'est pas tout à fait, parce qu'il est fils d'un marchand de chevaux qui va travailler quand même aussi avec les gitans et les gitanes, oui. Donc...
Mais c'est toujours plus difficile quand, de l'extérieur, tu viens en disant, voilà, moi, je voudrais faire un reportage sur les gitans.
Surtout que,
il est à l'intérieur, il s'est marié avec une gitane, et donc on a des images de la vie...
Espagnole, c'est ça l'important, alors, c'est ce qui va lui ouvrir aussi les portes de cette communauté particulière.
Alors, ouais, elle est française, hein, c'est...
Oui, mais là-bas, quand à Barcelone, ouais. C'est comme ça que ça va commencer.
Et en fait, on a des photos des gitans dans la vie de tous les jours et dans les fêtes, notamment. On a eu quelquefois à Arles des photos récentes sur les quartiers gitans. On est plutôt dans des photos qui rendent tristes parce qu'il y a une pauvreté, il y a plein de difficultés. Là, on a quand même plutôt des regards familiaux, donc des fêtes, des moments de joie, la vie un peu de tous les jours, les gamins qui font des bêtises. Ben voilà, il y a un côté humaniste positif très fort dans sa manière de photographier les gitans, et ça rend les photos vraiment intéressantes.
Oui, alors sa femme Rosario Amaya lui a servi aussi de modèle, elle-même était modèle pour d'autres artistes. Il l'a rencontrée donc à Barcelone au début des années 50, et c'est avec elle qu'il va commencer son travail de photographe indépendant, et que vraiment sa carrière débute de cette manière-là. Il est mort en 94, hein, donc voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu l'âge monsieur. Mais cette exposition aussi Barcelona Gitana, hein, qui parcourt, hein, cette exposition sur l'esprit nomade de Jacques Léonard au sein du musée Reatu, nous raconte aussi une histoire d'une pauvreté barcelonaise, entre autres. Des bidonvilles dans lesquels les gitans et les gitanes ont aussi été ghettoisés. Voilà, de la difficulté aussi de la condition humaine dans ces quartiers, hein, quand même. Mais c'est un humaniste, donc il nous raconte aussi la vie, la vie de rue, la vie des fêtes, la vie des chants, la vie de la danse, le sport, les foires, enfin tout ce qui fait vivre aussi ce groupe de gitans et de gitanes. Et c'est une assez belle exposition parce qu'on a quand même beaucoup de photos, donc on peut le suivre aussi tout au long de son parcours, et puis se rendre compte qu'on peut commencer aussi à devenir un photographe indépendant finalement tardivement, et que c'est pas grave, enfin tardivement en tout cas, on peut ne pas faire une école de photographie, se lancer dans une carrière pour ensuite devenir un photographe ou une photographe reconnue, non, c'est aussi une démonstration qu'on peut en étant un passionné de photos faire de très belles choses, et puis peu à peu devenir quand même quelqu'un qui a compté dans la photographie.
Ouais, alors il est vraiment pas connu quand même. Et quand on regarde en termes d'exposition, c'est assez récent qu'on peut voir à travers des expositions le travail de Jacques Léonard. Donc là, effectivement, l'idée de, comme à Arles, il y a une communauté gitane, de présenter son travail sur les gitans, donc majoritairement les gitans espagnols de Barcelone, ça paraît évident, mais il a eu droit ces dernières années à des expos, notamment à Paris. Donc il y a une vraie redécouverte, hein, du travail de Jacques Léonard sur ce très beau noir et blanc, notamment la communauté gitane, mais pas que, il a fait des photos sur d'autres choses.
Oui, parce que sur la communauté, là on parle de Barcelone, hein, mais il a été aussi dans les communautés gitanes de Sainte-Marie-de-la-Mer, par exemple, lors des regroupements, hein, aussi assez traditionnels, à Toulouse aussi, par exemple. Donc, et puis il a suivi aussi la destruction de ses quartiers, donc il a aussi un travail de raconteur de l'évolution aussi de ses quartiers, de leur destruction, parfois de leur reconstruction, mais aussi du déplacement, hein, des populations. Donc il nous raconte, hein, quelque chose d'assez fort, et c'est la galerie Anne Clerg, qui est une galerie de Arles, qui porte cette exposition de Jacques Léonard dans le cadre de ses rencontres. Et c'est une belle exposition au sein du musée Reatu, qui est un bel endroit. Et en plus, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est on peut parfois avoir ces grands espaces d'exposition, autant là, l'espace est petit. Donc ça cadre bien aussi avec la bienveillance qu'on peut lire aussi dans cette photographie de Jacques Léonard.
Voilà, la photographie humaniste, assez classique et vraiment très très impressionnante.
Et puis il arrive à saisir du mouvement, je voudrais aussi dire ça. C'est que quand on a les enfants qui jouent, on a le mouvement, quand il y a des danses. On a le mouvement, hein, c'est pas que la jupe, c'est qu'on a le corps. Et il arrive à saisir ça aussi, ce mouvement, vraiment. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans son travail photographique.
Voilà. On trouve quelques livres, hein, sur Jacques Léonard. C'est récent, hein, ça a une dizaine d'années, ouais. la redécouverte de ce photographe et de son travail, notamment sur la culture gitane. Donc voilà. On poursuit, on va de l'autre côté de l'Amérique, enfin de l'Atlantique, pour aller en Amérique. Alors là, c'est une énorme expo, enfin énorme, en termes de surface. Il y a pas énormément de photos, parce que les photos sont immenses. C'est le travail de Grégory Crutzon, qui est présenté à travers un triptyque, ou une trilogie, dirons-nous, de photos qu'il a prises entre 2012 et 2022, donc sur une dizaine d'années. En fait, il y a trois parties. La première partie s'appelle Cathedral of Pines, alors c'est la cathédrale des pins, ça se passe plutôt en forêt. C'est la photo couleur en 4 tiers en format immense. Il y a la deuxième partie de la trilogie qui s'appelle An Eclipse of the Moth, c'est l'éclipse des phalènes, en traduction française, et les phalènes c'est les papillons. Donc ça, c'est du 16:9 le format, et c'est en couleur. Et puis la dernière partie, c'est Evening Side, qui est très récent, hein, 2021-2022, qui est en noir et blanc sur des grands formats aussi. Et puis c'est précédé d'une intro sur une des photos de Luciol, sans aucun intérêt, dirons-nous. Par contre,
tu l'aimes pas. Non, c'est comme ça qu'il faut. Tu l'aimes pas. Voilà. Je l'aime pas non plus. Voilà. Mais voilà.
Et alors, là, on a une trilogie, mais on a des points communs. C'est-à-dire, toutes ces photos sont en grand format et on ressent, moi je trouve, la même chose. On ressent une société à l'abandon, on ressent de la décomposition, du délabrement, de la tristesse, des gens perdus. Enfin, on a une impression de malaise. Enfin,
alors, peut-être qu'on peut d'abord le présenter, hein, ce Grégory. Il est né en 62 à New York. C'est un ancien musicien punk, hein, pour votre information. Et lui, typiquement, il a fait une école de photo, la Sony à Purchase. Il va, au début de sa carrière, aller dans l'Amérique rurale. C'est ça qu'il va photographier. Donc, il s'en est sorti aujourd'hui de cette Amérique rurale, tout en continuant à la photographie, mais d'une autre manière. Parce que c'est une photographie spécifique, c'est un travail de photographe, c'est un travail de cinéaste.
Ouais, parce que alors en fait,
c'est ça qu'on va d'abord, voilà, peut-être d'abord expliquer aussi.
C'est à l'inverse des photos qu'on a présentées jusqu'à maintenant, où c'était des photos du réel, dirons-nous. C'est des gens qui prennent des photos sur des choses qui se passent en réel. Lui, il construit les photos. C'est un peintre, mais qui travaille avec un appareil photo. Donc il met en scène, en fait, les choses. Donc il choisit sur cette trilogie de photos le Massachusetts, parce qu'il y a passé une partie de son enfance. Il y a une ville sur l'éclipse des phalènes, par exemple, c'est la ville de Pittsfield, hein, qui existe vraiment, où il y a eu, par exemple, General Electric qui avait une usine de 1907 à 1987, et qui, quand c'est parti, les gens sont partis de la ville, il y a eu du chômage. Il montre ça, en fait, quelque part. Et pour la dernière partie en noir et blanc, c'est différentes images de différentes petites villes du Massachusetts. Donc on est dans des petites villes américaines et il fabrique une image. Il essaye de passer un message. Mais tout est fabriqué dans l'image.
Alors c'est pour ça que je vous parle de cinéaste, c'est-à-dire qu'il va avoir une équipe qui l'accompagne, une équipe de décorateurs, décoratrices, de coiffeurs, de coiffeuses, de costumiers,
d'éclairagistes.
Il a des gens qui conduisent des camions, tout est équipé, il arrive. C'est un travail minutieux, précis, et il va nous rendre une photographie figée avec des êtres humains. Et prenez votre temps. Oui, prenez votre temps. Chaque photo se révèle.
Il y a plein de détails.
Par du détail, ouais. Par une construction, et c'est extrêmement important de prendre son temps, alors ou pas, hein, parce que chacun et chacune fait comme elle veut, mais on peut, c'est d'un seul coup, la première, on fait bon, et puis on va s'arrêter. Et puis peut-être que vous allez voir quelqu'un à côté de vous se rapprocher, vous dire mais qu'est-ce qu'il regarde lui là. Et d'un seul coup, il y a l'heure du détail. C'est intéressant de lire les panneaux. Parfois les expositions c'est un peu chiant ou un peu long ou fastidieux. Là, ça nous raconte quelque chose parce qu'il y a ce détail qu'on n'aurait peut-être pas vu.
Oui, parce qu'il change des fois le nom des rues, ou alors les noms des rues se prêtent à un jeu avec les présidents américains, par exemple.
Sur des plaques d'immatriculation.
Voilà.
Des petites
choses comme ça. Les plaques d'immatriculation sont fausses.
C'est du détail de la marque. D'un produit sur un paquet abandonné. Donc tout est construit, même le paquet abandonné est construit. La coiffure d'un jeune comédien finalement qui va hanter sa photographie. Elle-même, c'est petits cheveux près que tout ça est mené.
Oui, parce qu'il est clair, comme au cinéma, donc en arrière-champ, on ne le voit pas, hein, dans le contre-champ, il y a des lampes qui éclairent les personnages, qui éclairent d'autres parties de l'image. Il y a, par exemple, il y a souvent de l'humidité par terre. Il attend pas qu'il pleuve, en fait. Il amène des gros camions et il arrose par terre. C'est pareil, il y a de la fumée quelquefois. Et bien, il a des grosses machines à fumer. Tout est construit. Et oui, il construit chaque image comme ça, pour montrer quelque chose.
Alors c'est un sens de la composition, c'est pour ça qu'on parle aussi du photographe Hopper, hein, c'est donc on y met des guillemets en avant et après comme ce peintre.
Oui, parce qu'il y a
quelque chose à la fois d'abandonné dans les personnages, de figé, qui semble nous raconter quelque chose et en même temps il y a rien qui bouge. C'est autant tout à l'heure je vous parlais de Jacques Lenard qui photographie le mouvement. Là on a quelque chose de figé qui se passe souvent avec le clair obscur, la fumée, la pluie.
Mais oui, c'est souvent filmé en fin d'après-midi.
Tout est travaillé.
Pour qu'il y ait les phares des voitures soient allumés, par exemple, alors qu'on a l'impression de jour, hein, parce qu'on est en fin d'après-midi. Ben voilà, il y a une ambiance incroyable de fin du monde. Moi, je trouve que c'est une ambiance de désespoir et de fin du monde sur chaque image. Tous les personnages ont le regard vague, tout le temps. On ne sait pas. Voilà, on peut imaginer des choses. Des fois, il y a une ambulance avec une porte ouverte. On se dit, tiens, là, il y a une personne âgée, il y a peut-être quelque chose. Mais on peut que. Imaginez, donne pas toutes les clés et c'est incroyable. Et ces images fonctionnent parce qu'elles sont immenses.
Oui, on est dans un univers assez fantastique. Donc à vous d'imaginer ce que vous avez envie devant cette photographie. On peut même jouer à ce jeu. Qu'est-ce que cette femme regarde? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce qu'elle va monter ou pas dans la voiture? Est-ce que cette femme qui semble vouloir aller dans un lieu pour femmes...
Oui, il y a une jeune fille.
Est-ce qu'elle est en pantoufle? Est-ce qu'elle en sort?
Elle sort d'un taxi, on a l'impression.
Voilà.
Et qu'elle va vers ce lieu d'accueil pour les femmes.
Ou est-ce que c'est l'inverse parce qu'elle est en pantoufle? On peut se poser toutes ces questions de est-ce que les gens viennent, entrent, sortent, et qu'est-ce que les gens attendent? Et donc c'est ce détail minutieux, cette rigueur du détail, du contenu, cette composition qui font toute la saveur de cette exposition, qui est vraiment, c'est un travail
phénoménal.
Phénoménal, absolument incroyable.
Il y a d'ailleurs un documentaire qui est projeté à la fin.
Ou on dirait un making-of.
Un making-of, on va dire. Voilà. Où on voit comment les gens travaillaient, préparaient les photos. Et les trois parties sont quand même très différentes parce que la cathédrale des Pins, on est vraiment en forêt. Il y a des trucs un peu bizarres, une voiture de flic, un matelas qui traîne. Il y a une ambiance un peu particulière. Quand on passe à l'éclipse des Falaises, là on est dans ce noir et blanc, cette couleur, avec cette ville de Pittsfield où tout semble partir à l'abandon, tout semble finir, qu'il n'y a plus d'avenir. Et puis après, on est dans la partie noir et blanc, où là, ça raconte plus des histoires, on a l'impression qu'il se passe des choses, malgré tout. Et donc voilà, c'est une très belle trilogie, il y a un livre qui regroupe les quatre parties, donc l'intro des Lucioles, et les trois parties avec toutes les photos qui sont exposées, hein, il doit y en avoir une quarantaine ou une cinquantaine, et voilà, c'est ultra impressionnant, c'est ultra beau, ultra triste, je sais pas, on a l'impression de voir un David Lynch en photo quelque part, toi. C'est un peu Twin Peaks à des moments, quoi.
Oui, vous avez entendu, hein, Laurent a employé deux fois le mot ultra, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup aimé cette exposition. On vous conseille, déjà, c'est un travail artistique vraiment fabuleux, le rendu est magnifique. Donc une exposition moins politique que ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent.
Quoique.
Mais qui raconte des choses. Voilà, le mec qui venait derrière. Et puis, surtout, qu'on peut pas. L'intérêt aussi de l'art, c'est pas forcément d'être toujours politique, c'est aussi d'être dans la notion du beau, ou du j'aime ou j'aime pas. Et donc, je trouve que cette exposition, il répond parfaitement, puisqu'à la fois nous n'aimons pas les Lucioles, mais nous adorons le reste. Je trouve que c'est certainement l'une des plus belles expositions cette année dans le cadre des Rencontres de la Photographie d'Arles.
Voilà. Il nous reste un peu de temps, on peut parler de deux, trois petites autres petites choses qui ont lieu à Arles. Moi, que j'ai trouvé sympa, il y a Anna Darabi. C'est une expo qui s'appelle Soleil of Persian Square. C'est là une petite salle vers la grande place centrale de Arles. C'est la salle Henri Comte. En fait, ça se passe à Los Angeles, aux États-Unis. plus particulièrement à Orange Country, qui est un quartier où, la photographe, je crois que c'est là, si je ne me trompe pas, oui, Anna en général c'est là, où la photographe cherche des traces de la diaspora iranienne. Donc c'est intéressant dans ces photos de Los Angeles, que je trouve horrible. Moi, c'est une ville qui me fait pas rêver, où la voiture est reine, voilà, avec des bâtiments avec des grands parkings devant. Et elle cherche à chaque fois les traces de cette communauté, puisqu'il y a une grosse communauté iranienne à Los Angeles et particulièrement dans ce quartier. Et voilà, on a des bouts comme ça, d'un seul coup, on voit, oh, là c'est écrit en perse, et puis c'est un coiffeur, là c'est un marchand qui vend la musique en cassette, la musique iranienne, enfin voilà. Et c'est intéressant de voir cette Amérique qui est finalement un assemblage de communautés, hein, un pays d'immigration, et de voir que l'Iran existe aussi à travers cette diaspora à Los Angeles, une diaspora qui a dû exister à différentes époques. On pense bien évidemment à celles et ceux qui sont partis relativement nombreux suite à la révolution islamique iranienne, mais aussi sûrement des gens qui sont venus après. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de montrer un peu cette image des États-Unis.
Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'expositions dont on vous parle pas. Hein. Il y a un choix assez incroyable quand même, des petits lieux, des grands lieux. Donc, il faut aussi se saisir. On n'est pas obligé de tout faire de ce qui nous interpelle, de ce qu'on connaît, de ce qui on ne connaît pas. On vous a pas parlé du tout des stars hein, comme Wim Wenders ou Agnès Varda. Voilà. Mais c'est aussi des stars qui sont cette année dans le cadre de ces rencontres. Donc ça vaut le coup. Tu voulais parler d'une autre exposition peut-être pour terminer?
Oui, il y a aussi l'expo des jeunes talents là qui a lieu dans une ancienne église là où il y a un peu de tout et chaque fois il y a des trucs. Oh, c'est pas mal. Oh, on n'aime pas. Oh. Ben voilà, c'est toujours intéressant de voir ces jeunes photographes qui s'y essayent et puis qui gagnent un bout d'expo.
Qui gagnent des prix, donc bout d'expo.
Voilà, un bout d'expo. Des fois, c'est très contemporain, c'est-à-dire qu'on est proche de l'installation. Des fois, on retombe dans de la photo qui témoigne de quelque chose. C'est le principe de Arles, hein, c'est d'être entre les deux, entre la photo témoignage humaniste. Pas photojournaliste, mais presque des fois. Et puis, la photo artistique, il y a quand même des choses qui sont que de l'ordre de l'artistique, comme on a dit tout à l'heure en parlant de Grégory Crutzen. Oui, je voulais juste dire un truc que j'ai trouvé intéressant. C'est une double expo. Alors, le photographe, c'est Spencer Ostrander. Et puis, c'est accouplé avec Paul Auster. Vous connaissez sûrement Paul Auster, l'écrivain américain. En fait, ils ont fait le tour à travers une trentaine ou une quarantaine de photos, je sais plus, de lieux où il y a eu des massacres. Vous savez, c'est typiquement américain, il y en a en moyenne un par jour, un endroit, quelqu'un qui arrive avec un fusil et mitrailleur ou avec un fusil et puis qui tue 5, 10, 15, 50 personnes. Donc c'est en moyenne un par jour aux États-Unis. Ils sont retournés sur ces lieux, sur quelques lieux de massacres, comme ça, et le photographe a pris des clichés noir et blanc de lieux vides. Et pour finalement, on a su cette quarantaine de photos. Alors c'est associé à des textes de Paul Auster qu'il faut avoir. Hein, il y a un livre, etc. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve dans ce parcours, c'est que c'est toute la banalité des lieux finalement, parce que c'est. Alors il y a quelques lieux de culte, hein, parce qu'il y a du racisme. Voilà, on vise certaines communautés. Mais surtout, c'est de la banalité. C'est un supermarché, c'est une école, c'est la banalité de l'horreur de cette société américaine avec ses massacres. Et c'est le but, hein, c'est de dénoncer à travers ce qu'ils appellent des photographies du silence. Ces lieux d'horreur assez typiquement nord-américains. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant.
Donc voilà, alors comme toujours, hein, on sait qu'on vous parle de quelque chose, d'un rendez-vous sur lequel le forfait journée n'est pas donné, hein, ou le forfait complet pour les expositions, on est bien conscient et consciente de tout ça. Malgré tout, si vous savez pas quoi faire et que vous avez un peu des sous, ben voilà, ça se visite quand même plutôt bien. Hein, hein, en train, hop, c'est pas direct pour y aller, mais en tout cas pour venir, ça l'est. Donc, c'est à faire peut-être une fois, hein, voilà. Et puis c'est peut-être à faire tout le temps ou de temps en temps. Et puis encore une fois, ben on peut aussi grignoter des choses. On peut aussi grignoter, par exemple, l'exposition de Johan Lamouler qui a une exposition qui s'appelle Les Enfants du Fleuve, qui est gratuite puisque c'est dans le jardin d'été au centre de Arles. Donc il y a, voilà, il y a aussi quelques lieux qu'on peut approcher comme ça. Voilà, c'est un peu nos conseils pour cette année, mais vous avez le droit de pas les suivre et d'aller voir bien d'autres choses lors de ces rencontres photographiques de Arles. Vous faites comme vous voulez, hein. Oui. Nous, on vous raconte ce qu'on aime. Et voilà, et sachez qu'effectivement, il y a un certain nombre d'ouvrages. Par exemple, Casa Susana, il y a un très bel ouvrage. Mais là aussi, tous les livres sont quand même, c'est pas donné, hein, les livres sur la photo.
C'est cher, ouais.
Donc, c'est ça, à s'offrir ou à offrir.
Voilà.
C'est de cet ordre-là quand même.
Et ce n'est qu'une vision succincte, hein, de la des expos. Il y en a beaucoup, beaucoup, et ça permet, voilà, de se balader, de voir un petit peu ce qu'on peut, ce qui peut exister aujourd'hui entre l'art et sur la photographie et les liens avec l'art et avec le côté politique. Il y a toujours un côté politique, hein, à Arles malgré tout. Donc voilà, faire une expo sur Casa Susana, c'est une expo politique, hein, quand même.
Oui, non, mais Arles, on va pas. Alors ça, je veux dire, on vous a pas parlé d'autres expos qui sont des expos féministes de cette année. Voilà, il y a quand même toujours ce que moi je trouve, en tout cas. Vous pouvez nous faire un retour sur ces questions-là, mais je trouve que c'est ces moments de des rencontres où des couples qui peuvent être discriminés dans le reste de l'année dans d'autres endroits du pays peuvent se tenir par la main sans difficulté et peut-être avec plus d'aisance aussi. Et je trouve que c'est quand l'art permet l'ouverture d'esprit, casse les discriminations, et ben ça fait du bien aussi de pouvoir du coup donner voix, existence à chacun et chacune d'entre nous. Voilà.
Et puis moi j'ai une dernière expo d'un travail un peu particulier qui s'appelle La Splendeur de l'artisane de Sophia Kulik, qui fabrique des sortes d'œuvres à partir d'images répétées qu'elle travaille. C'est entièrement en argentique, elle a de grands agrandisseurs et elle projette les images et elle fabrique des sortes de fresques en noir et blanc. En très noir, en fait, c'est même que du noir et du blanc.
C'est
il y a quasiment,
constaté.
Voilà, il y a pas de gris quasiment. Mmh. C'est hyper impressionnant. Moi, je trouve ce qu'elle fait, c'est très géométrique parfois. Voilà, c'est
il y a une technicité.
En fait,
il y a un travail de précision, voilà, de découpage.
On imagine, c'est elle fait
d'insertion une... voilà. de raccord qui est absolument.
Oui, parce que comme c'est fait à l'ancienne en argentique, quand elle fait une fresque avec un rond et un personnage qui est tout autour, eh ben elle prédessine le personnage. Ensuite, le papier photo, elle le protège et puis elle ouvre les parties où elle expose. Elle fait tourner, elle expose, elle fait tourner, elle expose. Enfin, c'est un travail de fou pour faire ces grandes fresques en noir et blanc qui sont que j'ai trouvé magnifique. Voilà, il y a plein de choses comme ça à voir sur ce festival des rencontres de la photographie de Arles.
On vous abandonne donc, ouais, pour ce
quelques
mois d'août. Au Brick, oui, hein, quand même, hein, pas mal de semaines. Nous nous retrouverons donc, je l'espère, pour la dernière semaine d'août. Nous allons essayer de tenir cet engagement. On vous souhaite à tous et à toutes un bel été, un bon été. Si vous travaillez, bon courage à vous et bonnes vacances aux autres. Et voilà. On vous abandonne maintenant avec les bandes musicales les plus fameuses de la Terre sur Radio Canu.
À bientôt.
Ciao, ciao.